Rock and Roll Suicide, un podcast entièrement réalisé par moi-même, Pascal Després. Aujourd'hui, le Velvet Underground, épisode 3. Novembre 65. Barbara Rubin, réalisatrice très active dans le milieu underground new-yorkais, remarque les performances du Velvet lors d'un happening dont ils assurent le son. Elle provoque, avec Allen Ginsberg, dont elle est très proche, la rencontre avec Al Aronowitz, reporter au New York Post. Ayant un certain poids dans le milieu du rock, il avait organisé la rencontre des Beatles et Bob Dylan et produisait déjà un groupe. Celui-ci est captivé par Lou Reed. L'écoute de leur bande ne le convainc pas, mais la rencontre a lieu avec Reed. L'idée d'amener le groupe à jouer dans les clubs du Greenwich Village n'en chante pas Lou, mais une discussion à propos du management va faire avancer le Velvet vers son destin et il se serre la main. Aronowitz organisera le premier concert du Velvet au Café Wa, au Village, dans sa formation définitive. Viré du Café Wa dès les premiers jours, leur musique étant indansable, Aronowitz, devenu manager, dut leur assurer leur première date, une première partie dans un lycée de banlieue chic au nord du New Jersey. Fin décembre ont lieu les derniers concerts avec Young et Cale pour Pierrot Elixir. Cale en revient nourri d'une pratique qu'il utilisera rapidement avec le Velvet, les drones à l'alto, montés avec des cordes de guitare et équipés de capteurs présents sur Venus in Furs, Heroin et The Black Angel Death Song en sont directement inspirés. Le son Velvet prend vraiment forme. Il s'électrifie de plus en plus et le battement métronomique de Maureen Tucker accroche l'ensemble des dérapages vocaux et instrumentaux avec force. Les versions folk des démos sont transfigurées. Lou laisse sa plume faire exploser les mots dans la noirceur de son âme écorchée, démembrée par l'électricité. L'attachement aux personnages est très fond, leurs histoires minutées, nous donnent à voir des tableaux vivants uniques à cette époque dans la musique. Personne, enfant ou parent, n'est préparé à ce qu'ils allaient vivre. Au lever de rideau, l'allure du groupe estomaqua l'assistance. Grands, vêtus de noir jusqu'aux lunettes, ils étaient impressionnants. Avant de pouvoir digérer la première impression, une attaque sonore stridente soutenue par une percussion à un niveau sonore élevé saisit l'assistance. Goes Again, suite Héroïne. Une grande partie du public se sauve alors devant un tel danger. fin, Venus in First clôt le set. Kyle viendra s'excuser en coulisses auprès des Middle Class, le groupe qui devait prendre la suite, non sans savourer l'effet de leur prestation, car si une grande partie du public s'était enfui, le reste était comme hypnotisé par ce qu'ils entendaient. Maureen Tucker se souvient de la nervosité du groupe et de sa batterie qui se désarticulait progressivement. Au moins, c'est une soirée dont ils se souviendront, leur dit Aronowitz. Fin 65, ils s'empressent de leur trouver une programmation en résidence au Café Bizarre, connu pour y avoir accueilli de grands poètes beatniks, la vague folk dont Dave Van Ronk et Dylan à ses débuts. Devenu un attrape-touriste, l'ambiance ne sera pas à la hauteur des attentes du groupe. Dans ce club glauque, un aboyeur pour présenter les artistes à de rares clients, plusieurs sets par soir avec pas mal de reprises, et un cachet de $5. C'est Barbara Rubin, toujours impliquée dans l'underground new-yorkais, qui fait découvrir le Velvet à Warhol, qui missionne Malanga pour aller les photographier au Café Bizarre. Malanga étant incompétent, Morrissey, plus sûr de lui, vint et fut emballé par le groupe. Son attitude calme, sa batteuse androgyne et ce mot « underground ». Il va les voir à la fin d'un de leurs sets et leur dit « Je suis le manager d'Andy Warhol. Je cherche un groupe de rock que nous pourrions présenter dans une grande discothèque qui va s'ouvrir au Queens. Vous avez un manager ? » À quoi le Velvet répond « Non ». « Je ramène Andy demain », répliqua Morrissey. Et le lendemain, la bande débarque, accompagnée du chroniqueur John Wilcock du Village Voice. Eddie Sedgwick et Malanga improvisent une danse érotique qu'ils reproduiront lors de l'Exploding Plastic Inevitable. Morrissey avait réussi à persuader Warhol de développer son concept multimédia en produisant un groupe de rock. À l'époque, l'explosion qu'avait provoqué l'arrivée des Beatles et des Rolling Stones montrait qu'il y avait moyen de faire de l'argent dans ce domaine, en tout cas plus qu'avec les films expérimentaux d'Andy. Lou Reed déclare « De toute évidence, il aimait notre musique. On faisait ce qu'il faisait, sauf qu'on se servait de la musique et lui de la lumière. » Faire quelque chose de très sincère, c'est ce qui permettait de travailler avec Andy, parce que c'était quelqu'un d'authentique. Effectivement, Warhol sentait dans ce groupe l'énergie déployée à briser les barrières qu'il s'efforçait lui aussi de mettre en œuvre dans son art. Au jour suivant, le patron, désagréable, n'aimant pas vraiment le répertoire du Velvet, finit par les menacer de les virer s'ils rejouaient une nouvelle fois The Black Angel Death Song. Le groupe se regarde, et recommence au set suivant. Ils se firent éjecter. Ils voulaient se barrer, ils l'ont fait, à leur manière, avec fierté. Myriad choices of the streets set themselves out upon a platform to choose. We're headed to lose. Whose bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep, not an old city street in the east, gone in June. And Warren's brother walked on through the night with his hair in his face, long and long spent in cut from the knife. Dawn until we said so long to his skull. Shrill yell.
shining brightly red-rimmed and red-lined with the time of fuse for the choice of the mine on ice hay-scraping chunks from the bills. Mouth bleeding razors, forget it, the pain antiseptic remains to goodbye. So you fly to the cozy brown.
Morrissey rencontrera Michael Meyerberg, le patron du Queen's Club, et le décide d'y organiser des concerts. En fait, Meyerberg avait le projet d'ouvrir une discothèque géante dans un hangar à Avion du Queens. Même s'il aimait le rock, Warhol ne s'impliquait pas dans le management de ses créations. Aussi, des gens comme Morrissey lui étaient indispensables pour que ses idées soient exploitées commercialement. Le Velvet, conscient du statut de Warhol et de ses moyens, tombèrent tout de suite d'accord. L'apport de cette collaboration fut immédiat pour le groupe qui put se doter de meilleurs matériels et se sentir plus unis par cet engagement. Mais un changement de taille les attendait avec l'arrivée de Nico. Andy Warhol et Paul Morrissey ont beau apprécier le Velvet, ils pensent que le groupe a besoin d'un chanteur plus charismatique que Lou. « Ce type n'a pas de personnalité et personne ne fait attention à lui », remarquait Morrissey. Il faut dire que ce rôle, Lou Reed ne l'a endossé que récemment, poussé par Morrison et Cale. Il n'avait donc certainement pas l'allure qu'on lui trouve à l'époque de Rock'n'Roll Animal, les cheveux peroxydés, tenus de cuir et, sous speed, une attitude scénique particulièrement violente. Warhol propose une chanteuse qui est bien loin de relever le défi et donc, sur l'insistance de Morrissey, Nico est mis en avant. Lou n'est pas emballé par l'idée et demande que son nom soit distinct de celui du groupe. Moi j'étais le pauvre petit rocker juif et voilà qu'arrive cette déesse. Après une réunion, le Velvet, sous pression, tombe d'accord. Il y aura une chanteuse. Nico avait déjà vu le Velvet au Café Bizarre et était en admiration devant leur style. Donc elle n'était pas à convaincre. Mais le répertoire du Velvet ne laissait pas beaucoup de place à une interprétation telle que ce que Nico pouvait et savait faire. L'histoire dura un an et demi et le groupe finira rétrospectivement par reconnaître son apport et ses qualités. Morrissey rédigera un contrat que le groupe mettra des mois à signer, c'est bien lui le manager et pas Warhol. Il s'occupait de tout, arrangeait les histoires financières et leur achetait du matériel et à manger. Le Velvet n'avait toujours pas mis les pieds à la factory, mais quand ils s'y rendirent, Lou sera époustouflé. Il y avait une énergie incroyable dans l'air. Vous savez, on parle souvent de la passivité de Warhol, mais il travaille constamment. Et c'est pareil pour tous ceux qui se trouvaient là à l'époque. On a commencé à répéter à la factory, et dès qu'on se pointait, Andy nous demandait « Combien de chansons vous avez écrites aujourd'hui ?» Et je disais « 10 ». Ce à quoi il rétorquait « Eh bien, vous devriez en avoir fait au moins 20. Il faut en faire autant que possible. » Cette idée de l'artiste qui travaille et produit était nouvelle pour moi. Les séances de répétition démarrent, on sent que le groupe sait s'inscrire dans un son vraiment rock. Il ne leur manque quelques semaines pour être prêts pour les premières programmations de Warhol. There She Goes Again, titre dont le riff est emprunté à Marvin Gaye sur Hitchhike, est aussi quasi achevé. On y entend pour la première fois Nico répéter et tenter de reprendre certaines des compos du Velvet.
I have to learn that.
Sur l'air de Cracking Up de Bo Diddley, Lou Reed déroule le texte de Venus in Furs pour Nico.
Shiny, shiny, shiny bits of leather. To get right into it, right?
Si le Velvet est au point sur le son et le jeu, il lui faut encore du temps pour ses propres créations et celles dédiées à Nico. Delmonico's Hotel, New York. Le Velvet a déjà plus d'une fois joué pour un public non averti. Cette fois, c'est Warhol qui prend la décision de les programmer lors d'un dîner de gala annuel de la New York Society for Clinical Psychiatry le 13 janvier 1966. Le paradoxe est évidemment voulu par Warhol qui se délecte de la situation. Les psychiatres. Cela rappelle quelque chose à Lou Reed.
They say that you live at home with mom and dad. They stay in mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons?
Demande un discours, artiste et créativité dans le comportement humain, tel que Warhol le propose avec son système. Il préfère montrer certains films et finalement, c'est Barbara Rubin qui se promène dans l'assemblée, filmant les invités en les questionnant sur des sujets sexuels de façon très directe. Ensuite, le Velvet, assez tendu, joue I'm Waiting for the Man, Heroin et Venus in Furs, avec en fond le film d'un homme ligoté sur une chaise et torturé. Présence de Malanga avec son fouet et d'Eddie Sedgwick qui sirote un martini. John Cale est impressionnant par sa taille et son costume à col en strass, tout comme Nico dans un pantalon blanc. C'était à mourir de rire, se rappelle Lou Reed. Warhol va réveiller l'attention des médias sur le groupe à une grande échelle. Si le public est mitigé et parfois violent, de nombreux commentaires vont sortir qui soulignent une certaine réussite dans la provocation menée ce soir-là. Le lendemain, le Herald Tribune titre « Pop électrochoc pour les psychiatres ». Présenté comme une œuvre, The Velvet Underground and Nico, A Symphony of Sound, un film d'une heure sur le groupe en répétition, Nico au milieu et son fils Harry à ses pieds, le Velvet jouant vaguement, est en tant que tel à peu près irregardable et inaudible. Va-et-vient du zoom, mise au point hasardeuse. En fait, il s'agissait d'obtenir de la matière à utiliser, avec les différents screen tests des musiciens, lors des concerts par projection simultanée sur le groupe et les écrans. La prise de son n'avait donc pas d'importance vu le nombre de projecteurs lors des concerts. 5 diapos et 5 films. Cet entrelacte ne nécessitait donc pas des images réussies, mais qui feraient partie du tableau final. Eddie Sedgwick, elle, entre la jalousie envers Nico et une participation minimale au spectacle, finit par quitter la Factory furieuse après une dispute avec Warhol. La Factory produisait un certain sadisme. Les membres cherchant à gravir l'hôtel et qui tombaient, par suicide ou overdose, occupés à se regarder se détruire les uns les autres. La mort d'Eddie Sedgwick n'est qu'un épisode parmi d'autres. Warhol demandera à Lou d'écrire une chanson en sa mémoire, ce sera Femme Fatale. On trouve aussi dans All Tomorrow's Parties une peinture sociale de ce milieu. Suivent des shows qui seront autant d'occasions de parfaire le dispositif de Warhol. Il colorise ses films en direct en appliquant des gélatines rouges, jaunes ou bleues sur les optiques. Danny Williams, qui deviendra un maître des lumières sur les scènes de spectacle, installe stroboscope et projecteur. Une nouvelle égérie de la Factory, Ingrid Superstar, prend la place d'Eddie Sedgwick. Fin mars 66, Meyerberg s'étant fait griller dans le Queens, Morrissey, sans lieu, entend parler du Dôme. Une salle de spectacle dans un hall de l'East Village au 23 St. Mark's Place. Il le loue pour un mois. Warhol, effrayé comme toujours face à quelque chose de nouveau, finit par accepter et achète une demi-page dans le Village Voice pour annoncer sa création. Une annonce passe le 31 mars alors que le contrat est signé le 1er avril.
We're sponsoring a new band, it's called The Velvet Underground. And since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way of combining, and we have this chance to combine music and art and films all together, and we're sort of working on that, and the whole thing is being auditioned tomorrow at 9 o'clock, and if it works out, it might be very glamorous.
Les Beatles au Cavern Club, les Rolling Stones au Crow Daddy, les Birds au Cyrus, les Who au Marquis, les Doors au Whiskey à Gogo. Tous, comme beaucoup de groupes, restent attachés à leur début à des lieux où leur union prend forme. C'est au tour du Velvet qui pour autant n'aura pas le succès de ses pairs. La résidence au Dôme, avant la sortie de leur premier disque, entrera dans la légende, 750 personnes assistent à la première, le billet est à 2$ et l'endroit est vite rempli. Tous les systèmes expérimentés par Warhol lors des précédents concerts ou galas sont confondus en un gigantesque débit d'images, de films, de texture et de son. Le public est enthousiaste, les habitués, Malanga, Marie Voronoff, Ingrid Superstar, attirent les projecteurs pendant que des fouets, seringues, haltères et grandes croix de bois servaient à imager leurs exhibitions. 18 000$ dès la première semaine et des réactions dans la presse assez positives. Le Village Voice publie une double page de photos, le New York Times une demi-page sous la plume de Marilyn Bender qui détaille la présence des People. Nico domine le groupe par son image et est souvent la seule à être nommée dans les articles, ce que Lou n'encaisse pas. Tous les week-ends, la foule grossissait. Le dispositif était unique pour cette époque. Les médias parlent plus de l'expérience multimédia que de la musique, ce qui laissera des traces sur le groupe. Maureen Tucker déclarera qu'elle aurait préféré être dans la foule, tellement tout ça semblait excitant. L'art de Warhol ici était de tout convoquer. La convergence comme message de l'art. De fait, il est un peu l'inventeur du disco. Norman Dolph, qui s'occupe de la musique entre les sets du Velvet, décrivait bien ce spectacle total révolutionnaire et indépendant de la musique où Malanga, portant un projecteur, éclaboussait le public d'images. Il souligna aussi combien la musique était inédite. Laurie commenta. C'était un spectacle par et pour les freaks. Il se trouve qu'il y en a eu beaucoup plus que prévu, parce qu'ils avaient enfin trouvé un lieu où on leur foutait la paix et où ils pouvaient s'amuser. C'était devenu l'endroit où aller pour se mêler à Warhol, au Velvet Underground et à l'Exploding Plastic Inevitable, et faire partie de ce happening, jusqu'au clan Kennedy ou les Magna Grecs du transport maritime. Charlie Gillette, auteur de The Sound of the City, Rise of Rock and Roll, la première œuvre sur l'histoire du rock, était là et fut happé par l'événement. C'était comme si le Velvet avait décidé d'enlever toute référence à la musique black. Les gens dansaient et l'apparition de Nico avec Malanga et son fouet devenait hypnotisante. Aucun enregistrement sonore digne de ce nom ne sortira. Mais les spectateurs qui assistèrent à l'EPI n'oublièrent jamais ce qu'ils avaient vécu. Vers la fin du mois, Morrissey commença à réfléchir à la production d'un album. Du 18 au 23 mai 1966, le Velvet se trouve en studio. En quelques jours, au 7h studio, ils enregistrent leur premier disque. Le lien est fait grâce à Dolph, qui connaît par un de ses clients le studio 7h, 54e rue Ouest, là où s'ouvrira le fameux studio 54. Tout est un peu flou, aucun contrat n'y a été signé. L'acétate qui est gravé deviendra une des reliques les plus chères et rares du rock. On en découvre l'existence que 40 ans plus tard. Ces sessions doivent créer un aperçu général en vue d'un contrat potentiel. Les coûts sont partagés entre Warhol et Norman Dolph, cadre chez Columbia Records, qui se fait payer en œuvre d'art. Warhol était toujours entouré de gens à qui il lançait des idées. Ça se faisait ou pas, mais c'était direct. Quant aux Velvet, ils étaient bien décidés à faire leur album. Quelques 2000 $ d'Andy pour deux ou trois nuits et le groupe passe une dizaine d'heures à enregistrer, effectuer les playbacks et mixer. Ce rythme de travail n'était pas rare à l'époque. Comme le groupe n'est pas néophyte entre le passage chez Pickwick de Luke et le disque de Nico, Dolph va devoir faire preuve de maîtrise. John Licata, l'ingénieur du son de Scepter, est donc embauché pour maîtriser le travail. Licata était selon Dolph formidable. Coopératif, facile à vivre, aucun des musiciens ne lui a dit quoi que ce soit. Le groupe venait, jouait et arrivait à produire ce qu'il souhaitait. En fait, le studio devait bientôt disparaître, d'où son état de délabrement. Quatre micros, des murs avaient disparu, ils installèrent la batterie comme ils pouvaient et amenèrent leur matériel. Dolph dirigeait les sessions, mais ne comprenait rien à l'enregistrement. Le lieu était exigu, rien pour séparer les instruments. Le Velvet jouait très fort, et le peu de fois où ils se plantèrent, on effaçait la prise pour économiser la bande. Warhol passait parfois, disait ce qui lui plaisait pour nous soutenir, et c'est à peu près tout. Il rendait les choses possibles, se fichait des considérations commerciales. Selon Lou Reed, c'est certainement ce qui leur a permis de rester fidèles à leur choix et de repousser les limites sonores et textuelles du rock vers un territoire inviolé, avec des chansons qui deviendront des classiques. Sterling Morrison prend la basse quand Cale est à l'alto. Bref, la prod est rudimentaire pour ces années. On avait l'impression que c'était John Cale qui structurait le travail. Lou était Lou, mais Cale prenait les décisions. Pour Motoker, ce manque de temps a poussé le groupe à ne pas s'éparpiller. C'était comme s'il jouait live. Cale décrira les séances comme un vrai fouillis, Dolph dans la cabine faisant des commentaires et le groupe se demandant quand ça enregistrait. Pourtant, cette opportunité de faire un truc révolutionnaire, Cale le sentait. Combiner avant-garde et rock, faire quelque chose de symphonique, il y avait de l'exaltation à être sur le fil du rasoir. On se mettait à jouer et on perdait conscience. On passait un excellent moment. Le vrai défi était ce mélange jamais proposé. Un rondement de guitare accordé en ré, les grincements du feedback, Cale produisant un drone, des crissements, le jeu répétitif et sinistre de Mo et le chant d'outre-tombe de Nico. Dans tous les cas, il fallait que la voix passe bien, au vu de l'importance des textes. Le mixage un peu confus sur les morceaux les plus violents n'empêche pas la force des thèmes à s'imposer. Run, run, run gronde comme un métro. La fin de European Sun explose littéralement.
And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never.
On va fermer la porte, mais je l'ouvrirai la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne nuit.
'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.